C'est Radio Campus Lille, il est 8h.
Un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel. Vous pouvez me croire, je suis essentiel.
Nous sommes le premier lundi du mois et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du revenu de base avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ce matin?
Oui, ça va bien. Et toi Max?
Ben oui, très bien. Un peu des allumettes au fond des yeux, mais bon, comme tout le monde, je présume, à cette heure-ci.
Ah, je pensais que c'était des étoiles.
Oui, aussi.
Quand
aussi.
Tu me vois, c'est des allumettes, toi.
Ah bah pour tenir les paupières, penses-tu. Et je crois que tu as une invitation. Aujourd'hui.
Oui, une invitée qui va te plaire. Figure-toi qu'elle a travaillé avec les intermittents du spectacle.
Wow.
Alors j'accueille Antonella Corsani. Bonjour Antonella.
Bonjour.
Alors tu as, comme Max est intermittent du spectacle, il est ballonologue, du coup tu as déjà son amitié, ce qui va sans doute nous permettre d'avoir des super musiques. Alors je te présente en quelques mots bien choisis, alors attention pour tout le monde, tu es économiste et sociologue, enseignante chercheuse à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne. On a tout dit ?
Mais oui, c'est bien.
En très résumé, et effectivement, comme je le disais en intro, tu as notamment travaillé, fait pas mal d'enquêtes avec les intermittents et les coopératives d'activité et d'emploi. Donc tu vas nous parler de tout ça. Mais avant, je vais te passer à la moulinette de notre question favorite. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire, que tu travailles ou que tu travailles pas, tu l'as et c'est jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que ça changerait pour toi?
Eh bien, qu'est-ce que ça changerait pour moi? C'est que j'aurais la possibilité de créer des œuvres. Voilà.
Des œuvres?
Des œuvres. Et voilà, c'est, je ne sais pas si... Si tu as lu, et oui, c'est ceux qui nous écoutent ont lu, et si c'est pas le cas, j'invite à le faire, un petit livre magnifique de Virginia Woolf. C'est un livre qui date de 1929 et qui s'appelle Une chambre à soi. Et c'est justement à partir de cet ouvrage que j'ai rencontré les intermittents du spectacle. Pourquoi? Parce que ce livre, il parle de quelque chose. En fait, Virginia Woolf, il imagine d'être sollicité pour parler des femmes et de la poésie, en fait. Et donc, tout l'ouvrage, c'est, il dit, mais de quoi je vais parler? Puisqu'in fine, il n'y a pas de femmes poètes. Et donc, elle va voir pourquoi il n'y a pas de femmes poètes, pourquoi il n'y a pas de femmes qui ont créé des œuvres, en fait. Et donc, elle va conclure qu'il faut des conditions nécessaires à la création d'œuvres d'art, et ces conditions nécessaires, et tu vas voir, c'est d'avoir 500 livres de rente et une chambre dont la porte est pourvue d'une serrure si l'on veut écrire une œuvre de fiction ou une œuvre poétique. Donc je pense que là on a véritablement une première, je dirais, idée portée par une auteure féministe, par ailleurs, de ce revenu, et elle le développe non pas, elle le développe véritablement par rapport à cette idée de l'œuvre, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, parce qu'après ça m'intriguait, et comprendre pourquoi, en fait, pour pouvoir créer des œuvres, eh bien, elle dit, vous allez me critiquer que je donnais, j'ai fait la part trop grande aux choses matérielles, et elle dit, mais c'est bien ça, en fait, hein, la liberté intellectuelle dépend des choses matérielles, la poésie dépend de la liberté intellectuelle. Voilà, cette histoire de quoi faire, c'est cette liberté, conquérir cette liberté, et que cette liberté dépend de conditions matérielles. Les conditions matérielles qu'elle donne, c'est justement avoir un revenu et une chambre à soi avec serrure. me semble les deux conditions fondamentales de la liberté et de la liberté de créer des œuvres. Et Pierre raconte aussi ce qui était sa vie. Elle imagine raconter sa vie et ce qu'elle était autrefois lorsqu'elle n'avait pas de revenus. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après, à un moment donné, elle a un revenu? Eh bien, bon, d'abord, elle décrit cette situation de grande souffrance, de grande haine, de grande amertume, parce que elle doit pouvoir se plier. Donc, c'est la notion aussi de précarité qu'elle développe pour pouvoir obtenir les conditions pour vivre, en fait. Et puis, je disais, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Elle raconte qu'elle se retrouve avec cette rente fixe. Et qu'est-ce que c'est, cette rente fixe? Cette rente fixe est, en fait, un héritage qu'elle reçoit de sa tante Mary Beaton. Et Mary Beaton, en fait, c'était qui? En fait, c'était une femme qui vivait à Bombay et qui tombe de cheval, et elle va décider elle avait décidé de donner son héritage en cas de mort à sa nièce, mm-hmm. qui avait son même nom. Et donc, et là intervient une question assez importante aussi, qui est posée notamment par Gayatri Spivak, l'une des grands auteurs, je dirais, de la pensée postcoloniale, et qui a relu justement cet ouvrage de Virginia Woolf, et qui dit en fait, mais d'où vient cet argent? D'où vient l'argent de Mary Beaton, de la tante Mary Beaton qui est tombée de cheval et qui a laissé un héritage, cette rente ou ce revenu fixe à sa nièce? Et donc elle dit, bon, il vient de l'impérialisme. Et donc, la leçon à tirer, c'est de se poser toujours la question d'où vient cet argent. Mmh. Voilà, comme clause sociale fondamentale.
Donc, à quel prix on l'obtient et remonter aux sources, quoi.
Mais on y reviendra, je pense. On y reviendra sur la question du financement, justement, mais qui est posée. Dans ce qui est très beau dans ce petit ouvrage magnifique, en fait, c'est que la question, elle est posée. Et elle est posée aussi, véritablement, sur le questionnement d'où vient l'argent et donc comment il peut être financé, ce revenu pour tous, ce revenu fixe, condition de la liberté, condition de la possibilité de créer des œuvres, en fait.
Ça revient à toujours se rappeler et s'interroger sur à quel prix j'ai ma liberté et au prix de la liberté de qui d'autre, quoi, c'est ça?
Exactement, exactement. Et donc, elle inscrit immédiatement cette problématique dans une problématique qui n'est jamais individuelle, mais elle est collective. Donc, effectivement, je peux répondre à la question « qu'est-ce que j'en ferai ?» de cet argent, de cette rente fixe à vie, mais elle est immédiatement une question collective, en fait.
En termes de responsabilité.
Même si je peux en avoir un usage personnel, mais il relève toujours d'une dimension collective.
C'est intéressant aussi parce que ça éclaire que notre émancipation à travers Virginia Woolf individuelle aujourd'hui ici en Occident, elle est aussi au prix d'autres esclavages passés, mais aussi encore présents, et qu'elle ne devrait pas avoir ce coup-là, quoi.
Absolument, absolument. C'est exactement ce que met en avant Gayatri Spivak, mais qui était déjà présent chez Virginia Woolf. Elle a cette finesse parce qu'elle dit jamais. La tante, qui en fait c'est un sujet colonial, la tante Mary Beaton, elle est allée vivre à Bombay, c'est l'impérialisme anglais, hein, et elle dit, elle a gagné de l'argent comment, mais en fait il a fallu des guerres. Et elle parle de la guerre de Crimée, c'est la guerre d'Europe qui est donc la première guerre, en fait. Elle parle de ces guerres qui, de l'impérialisme et des guerres qui ont rendu possible cette richesse qu'on va hériter. Mmh. Et donc, effectivement, elle pose véritablement, c'est pour ça que cet ouvrage est très riche, parce que, à la fois, elle pose la question du revenu et de la liberté, elle pose la question des femmes, parce que quand elle dit qu'il faut avoir une chambre à soi et un revenu fixe, La chambre à soi, c'est ce qui manque toujours aux femmes. Et paradoxalement, même encore aujourd'hui, on peut voir que, par exemple, la gestion du télétravail dans les maisons pendant la gestion de la pandémie avec le télétravail pendant donc le confinement, en fait, pour beaucoup de femmes, c'était assez problématique parce qu'ils n'avaient pas de chambre à elles. Donc, et c'est un siècle plus tard. Donc, et aussi la question que je pense qu'on doit poser, que la question du revenu de base, comme vous l'appelez, moi je l'appellerai le revenu inconditionnel d'existence, mais on parle de choses tout à fait proches qui entrent en dialogue, qui s'enrichissent réciproquement. Et en tout cas, la question du revenu, elle ne peut pas être posée simplement en termes d'argent, elle doit être posée aussi en termes de conditions d'accès au logement, des conditions d'accès à la santé, des conditions d'accès à l'éducation. Et que donc il y a une dimension, je dirais, véritablement non monétaire de ce revenu.
Et alors, du coup, justement, j'aime bien ta façon d'entrer dans la problématique parce que ça éclaire déjà les fondements de la version que tu as imaginée. Donc, en partant des intermittents du régime, des intermittents du spectacle qui, déjà un petit peu, même si c'est complètement perfectible, déconstruisent un petit peu le rapport entre travail et revenu. Avec une forme de mutualisation, et que ça reste conditionné évidemment à du temps de travail. S'il y avait un revenu de base, on le saurait déjà. Mais est-ce que tu peux nous présenter les attentes sociétales de cette version que tu portes et que tu appelles effectivement revenu inconditionnel d'existence ?
Alors, je dirais que on peut voir effectivement. Je n'ai pas une proposition toute faite. Et c'est dans le principe même de la manière comme je pense sur le revenu inconditionnel d'existence. Mais je peux développer dans quelle perspective je le pense aujourd'hui. Et je propose de le penser comme une condition qui n'est jamais une certitude. C'est une condition nécessaire, mais jamais suffisante. Pour l'émergence de nouvelles formes de production et de consommation. Et alors, je vais l'appeler pour une économie écosophique. Alors, le mot, il doit être un peu problématique. Donc, j'essaie de développer un peu plus.
Si tu peux le définir.
Oui, je vais le définir. On va y essayer d'y arriver doucement. C'est un concept qui avait été élaboré par un concept, une manière de penser la question écologique qui avait été pensée par Félix Guattari et aussi reprise par Gortz. Alors, André Gortz, il disait quelque chose de très important, que la critique, l'écologie n'a de charge critique éthique si la question de la dévastation de la Terre, la destruction, je peux vous le dire même exactement ce qu'il disait, l'écologie n'a toute sa charge critique et éthique que si les dévastations de la Terre, la destruction des bases naturelles de la vie sont comprises comme les conséquences d'un mode de production. Et que ce mode de production exige la maximisation des rendements et recourt à des techniques qui violent les équilibres biologiques. Et donc, ça, c'était dans un entretien qui avait été publié en 2005, quelques années avant sa mort, dans la revue Ecoreb. Et on a quelque chose de tout à fait proche chez Félix Guattari, qui lui, il était psychanalyste et militant politique, qui disait pareillement, en fait, qu'il est impossible de penser la question écologique dissociée d'une critique et de l'effort qu'on peut mettre dans la réinvention des finalités économiques et productives. Et que donc, il va dire qu'en fait, qu'on pose la question de l'écologie, il faut la penser au pluriel. Et il va parler d'écosophie pour signifier quoi finalement ? Pour signifier ce qu'il appelle un agencement des trois écologies. Et de quoi on parle, en fait? On parle, quelles sont ces trois écologies dont il parle? Par ailleurs, il y a un petit livre qui s'appelle justement « Les trois écologies » et une nouvelle édition vient de sortir. Et il est vraiment très, très joli, ce petit livre, et intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, l'écosophie, c'est l'agencement de ces trois écologies. Qu'est-ce que c'est, ces trois écologies? Mais la première écologie, c'est une écologie mentale. Qui a à voir avec quoi? C'est le rapport que chacun de nous a avec soi-même. Et si, donc un rapport subjectif à soi-même, être bien avec soi-même.
En termes de et, confiance en soi, d'auto-considération, quelque chose comme ça?
Alors, on peut le lire, je l'ai lu de cette manière, oui, on peut le penser de considération mais de soi, mais... en le soustrayant à une logique de la concurrence, en fait, hein.
D'accord.
Et à la logique, si tu veux, du capital humain, en fait, hein. Mmh. Et là, je me relis à nouveau à ce que disait Gorz dans son dernier ouvrage, L'immatériel, où il voit comment cette chose qu'il appelait la production de soi, c'est-à-dire comment je me soigne, comment je fais attention, comment je me forme, comment je me soigne, et tout ce que je peux mettre dans l'épanouissement de ma personne, en fait, comment tout ça est capté et pris par la contrainte monétaire du revenu, et il devient, cette production de soi devient capital humain, cette notion néolibérale horrible, qui fait que nous sommes dans la recherche de notre épanouissement, mais dans la recherche, notre affirmation dans un monde compétitif en tant que capitaux humains. Mmh. Et donc, cette écologie mentale, je pense qu'on peut la saisir, et donc ce rapport subjectif à soi-même, libérer cette production de soi de son devenir capital humain. Mmh. Et donc, libérer la production de soi de la contrainte monétaire du revenu. Mmh. Et donc, une production de soi qui n'est pas destinée à se valoriser sur le marché du travail. Se former, s'éduquer, non pas pour se valoriser sur le marché, mais pour le plaisir et le désir de connaître.
Et de s'épanouir pour soi-même, en fait, c'est ça?
Pour soi-même. Alors, là intervient aussi l'écologie sociale, c'est la deuxième écologie.
D'accord.
Qui est le rapport aux autres. Est-ce que le rapport aux autres peut être tenu par cette logique de la concurrence? Est-ce que ce rapport aux autres peut être tenu par le fait que notre socialité aujourd'hui passe par le travail-emploi, ce que Gorz appelait le travail-emploi, et non pas par l'exercice d'activités qui sont finalisées à elles-mêmes? Des activités autonomes, des activités qui sont finalisées elles-mêmes. Encore une fois, connaître, ce n'est pas apprendre et connaître, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais ça peut être pour le désir de connaître et d'agir sur le monde, positivement sur le monde. Et donc, cette question de l'écologie sociale met en jeu le rapport aux autres qui ne peut plus être médié uniquement par l'emploi, par le travail-emploi. Notre socialité, aujourd'hui, elle est liée au travail-emploi, c'est-à-dire à des activités que nous faisons sous la contrainte monétaire du revenu.
Et donc, la
question, c'est que nous sommes tenus là-dedans par le principe de concurrence, oui, auquel il faut pouvoir imaginer comment nous pouvons réapprendre ou à apprendre la coopération contre la concurrence. Et la troisième écologie, c'est l'écologie environnementale, donc c'est le rapport à l'environnement. Donc, qui veut dire aussi la possibilité de l'investir comme activité autonome. C'est-à-dire comment je peux réinvestir ma personne, la production du moi, dans une relation coopérative aux autres, pour l'environnement.
D'accord.
Voilà comment peuvent être imaginée cette économie écosophique qui agence les trois écologies et qui donc me rapporte à un monde qui m'inscrit dans le monde de manière complètement différente que celle qui est portée par le travail-emploi, la concurrence Et la logique qui est propre à la modernité occidentale, qui est celle de l'appropriation de la nature comme s'il était infini et son retour critique, comme aujourd'hui on peut le connaître avec la crise climatique.
Wow. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Max est au taquet et est largement inspiré.
Mais oui, bah, du coup, je vous propose le groupe Pang avec Fais-le, et, parce qu'en fait, une des façons écologiques de tout ça, c'est aussi de faire soi-même les choses, peut-être.
Faire son œuvre.
Absolument.
Plein de produits locaux, c'est sain, le panier bio. Viens, viens, rejoins le réseau. Tiens, 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 prends ta part du gâteau, c'est effectif. On se mobilise en collectif, on se galvanise. Nord, sud, autour de la table pour relever le défi du commerce équitable.
Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin. C'est une pièce unique, pas une énième réplique. Une chose qui a surgi dans ma tête, qui aujourd'hui est bien faite, qui me rend fier de moi, de ce que je sais faire avec mes doigts. Quel plaisir de profiter de ce qu'on a créé, que ce soit du miel, une table ou de quoi se maquiller. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait.
Ouais, c'est lui qui l'a fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Un peu de vert par-ci et beaucoup de bleu par-là. Mon boulot, c'est trop chouette. Moi, ouais, je crée des planètes dans la glace. J'insuffle la braise de la vie. Et mon monde fleurit. À mon image, je vous ai modelé. Prends le pouvoir de l'univers. À toi de faire.
Plus rien n'a bouffé, les boulangeries sont fermées. Dans mon placard, j'ai que de la farine de blé complet. Au sel et levain, une heure après, j'ai fait mon pain. Deux pas dans le jardin, je cueille tomates et mesquins. Les graines, c'est un cadeau du voisin. À le blanc qui débarque avec ses falafels au cul, main. 100% fait main. Tel sera notre festin, ouais.
Si tu veux un vélo, fais-le. Si tu veux un gâteau, fais-le. Si tu veux une sucette, fais-la. Si on t'en empêche, bouge-toi le derche. Si t'as des cruches, fais-les. Que t'as chaud, que t'as séché, fais-le. Que t'as les crocs, t'en peux plus, fais-lui. Si t'es un chat, fais-l'un. Que tu veux grandir, fais lion. T'aimes dormir, fais lit. T'es jouette, fais-loi. Fais ton pain, fais le vin, fais du vin, fais le bien. Puis fais le malin, fais en mandarin. Fais ta main, fais du lien, fais du gras à ta fêtière. Fais un rien, on s'en fout ou sois fou, fais tout.
I wanna do it, yes, I'm gonna do it. I wanna do it, yes, I'm gonna do it. Do it, do it, do it, do it. Do it, 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 do it.
Et voilà, c'était le groupe Pang sur les ondes de Radio Campus 106,6, une radio que vous pouvez également écouter sur le www.campuslille.com ou sur le DAB+. Et on est toujours pour à l'écoute de tous essentiels avec Virginie.
Et Antonella l'a fait. Antonella est partie de ses enquêtes en tant qu'ancienne chercheuse auprès des intermittents et des coopératives d'activité et d'emploi. Et donc, tu viens de nous parler des trois écologies et de leurs liens. Est-ce que tu peux nous préciser maintenant comment ce fameux revenu inconditionnel d'existence, pour toi, peut venir soutenir cet entrelacement, cet équilibre entre les trois écologies?
Eh bien, alors, je dirais deux points, en fait, qu'on peut retenir dans cette idée de la comment le revenu inconditionnel d'existence peut permettre l'agencement des trois écologies et leur articulation, on peut dire articulation, agencement des trois écologies. Alors, la première chose, c'est d'avoir une petite réflexion sur l'économie du temps. Alors, l'économie du temps, sous le capitalisme, elle est tenue par une formule basique, hein. Le temps, c'est de l'argent.
Oui, il paraît.
Et donc là, qu'est-ce qu'on fait avec le revenu inconditionnel d'existence? Et pareil avec le revenu de base, on va inverser le rapport entre temps et argent. Et donc, c'est l'argent qui devient du temps,
ah,
en fait. Donc c'est l'argent qui libère le temps que nous pouvons consacrer à, au rapport aux autres, au rapport à nous-mêmes, au rapport à l'environnement, c'est-à-dire pouvoir agir effectivement, agir au sens de l'action politique sur le territoire pour l'environnement. Donc ce revenu peut être une condition pour que nous puissions dégager du temps pour une activité, pour l'environnement, mais aussi pour nous-mêmes, pour notre être bien avec soi-même et pour être bien avec les autres, un temps aussi pour les autres. Il y avait un sociologue du temps qui s'appelait Grossin qui avait dit l'écologie, il doit être total. L'écologie totale doit inclure une écologie du temps. Et il parlait d'une équation temporelle. Dans cette équation temporelle, il imaginait la nécessité de disposer du temps pour les autres et du temps pour soi. Et donc, le revenu inconditionnel d'existence, potentiellement, on peut dire, est une condition pour pouvoir avoir une autre économie du temps que celle qui s'est définie sous le capitalisme et qui faisait que le temps était pris dans la production de l'argent, en fait. Ça, c'est une première manière comme il peut agir. La deuxième manière, c'est qu'il peut permettre un autre système de valorisation. Sous le capitalisme, en fait, on est pris dans des logiques binaires et des champs de valeurs, des valeurs sociaux qui font que on a à l'esprit riche, pauvre, personne autonome, personne assistée, personne intégrée, personne désintégrée. Et en fait, il peut bouleverser complètement, faire sauter cette dichotomie, puisque il n'y aura plus d'assistés et quelque part, il y aura tous des autonomes, en fait, des personnes autonomes. Et quelque part, il n'y aura plus véritablement de pauvres avec ce revenu. Et il y aura une forme d'intégration, en tout cas, par un système nouveau qu'on peut imaginer comme l'économie distributive de Jacques Dubois qui avait été pensée dans les années 30, où on se met d'accord sur... pas une convention collective, on décide, convention collective pas au sens qu'on connaît, par une convention sociale, on va définir qu'est-ce que pour nous la richesse, on lui donne et on la distribue parmi toutes les personnes qui ont fait partie, comme revenu inconditionnel d'existence. D'accord ? Et donc, avec ce revenu, il y a la possibilité de faire sauter ce système de valorisation. Basé sur les oppositions binaires, riche, pauvre, autonome, assisté, intégré, désintégré, et pouvoir déployer un autre système de valorisation dans lequel il y aurait d'autres valeurs comme solidarité, écologie, esthétique. Ça, c'est une perspective aussi de Guattari, Félix Guattari, qui imaginait justement c'est l'écosophie comme possibilité véritablement de valorisation d'autres, de porter en avant un autre système de valorisation que celui basé sur les dichotomies exclusives en fait.
Oui, ce qui est intéressant, si je me permets, hein, c'est que aujourd'hui on est dans un système qui individualise beaucoup la responsabilité. Si t'es pauvre, c'est que t'as pas réussi, en gros, pour faire très vite. Si t'es précaire ou si t'es assisté, c'est que tu préfères dépendre et ne rien faire des autres plutôt que de prendre ta vie en main et d'assurer. Alors que là, la façon dont tu présentes le revenu de base, ça permet de reprendre des responsabilités collectives et du coup de re-rendre l'autonomie de chacun, mais finalement aussi, mais là pour le coup, une vraie responsabilité sur sa propre vie, là où aujourd'hui on donne de la responsabilité aux gens qui subissent plutôt et qui
individuellement ont finalement très peu de marge de manœuvre versus d'autres qui en ont beaucoup plus et qui l'assument pas. Et là, d'après ce que j'entends, c'est en reprenant notre responsabilité collective, on peut du coup reprendre la responsabilité individuelle. Chose comme ça ?
Oui, absolument. Absolument, je peux être d'accord avec ce que tu dis. C'était pas forcément ce que j'avais pensé dans ces termes, mais c'est tout à fait juste. Je peux effectivement converger sur ce que tu dis, en ce sens que effectivement, c'est déindividualiser et reprendre, disons effectivement, la dimension sociale, la dimension collective, comme condition possible pour chacun.
Et de façon concrète, ça peut s'illustrer assez facilement. Enfin, je repense à ce fameux sondage ou même aux questions qu'on pose nous au groupe local de Lille ou au MFRB en général. Quand on nous demande aux gens, imaginez si vous avez un revenu de base, etc., etc. Spontanément, alors, très nombreux, au moins un quart des gens, jusqu'à la moitié des gens, continuent de travailler mais changent leurs conditions de travail et même travaillent moins. Donc ça rejoint ce que tu disais en tant que le temps libéré. Et quand ils évoquent ce qu'ils vont faire, il y a une partie effectivement qui concerne le prendre soin de soi, de ma santé, manger mieux, pouvoir acheter bio, etc., etc. Et il y a aussi tout un pan qui se développe, qui est majoritaire en fait dans les témoignages et les réponses. Et là, je vous parle de milliers de personnes qu'on a pu interroger depuis les 11 ans du MFRB au moins. C'est pouvoir m'investir dans des associations qui font sens, même si ça rémunère pas, pouvoir m'investir dans une association de quartier sur du sport, sur de la musique, pour transmettre aux jeunes ou plus aider ma famille, etc. Et on voit finalement que dès que les gens ont le choix, ils font le choix exactement comme ce que tu disais, tu vois, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres et de prendre soin de notre environnement de façon non dirigé, alors qu'aujourd'hui on est dans un monde où les pauvres, il faut leur apprendre à être responsables, il faut leur apprendre à prendre soin de la nature, parce que bon, évidemment ils gaspillent beaucoup, hein, c'est ce qui se raconte, ils prennent pas plus soin des autres, ils sont trop égoïstes, et puis ils prennent même plus soin d'eux, regardez comment ils sont sapés, comment ils se tiennent, enfin, bref, il y a une culpabilisation à ces trois étages-là, alors que le fait de sécuriser et en même temps d'individualiser le revenu et la responsabilité, bah les choix des gens vont exactement dans les trois écologies que tu nous as présentées.
C'est très intéressant ce que tu dis, très très intéressant.
Merci.
Très très intéressant. Et effectivement, cette idée de penser que les gens font rien, d'une part, les gens font toujours des choses,
déjà,
mais pas forcément des choses qui sont valorisées sur le marché.
C'est ça.
Et qui, par ailleurs, sont parfois assez souvent problématiques d'un point de vue écologique, au sens environnemental, du mot écologique. Mmh. Et d'autre part, on valorise jamais ces savoirs, ces connaissances, ces activités mineures qui sont celles de gens qui peuvent apparaître non intégrés, et certainement, probablement, ils ne sont pas intégrés selon une certaine manière de penser l'intégration, mais
genre
l'insertion
professionnelle.
Voilà, il y a toujours des formes de vie, les formes de vie, mais qui doivent faire les comptes justement avec la contrainte monétaire du revenu, et que relâcher la contrainte monétaire du revenu par un revenu inconditionnel d'existence, c'est permettre justement d'autres formes d'action, d'autres formes d'existence, d'autres formes d'activité. Voilà, d'activité.
Il est valorisé aussi, parce que les personnes dont on parle souvent se dévalorisent. Absolument. Et dévalorisent leur propre vie et leurs propres activités sous le regard des autres.
Et donc, il est vrai aussi que la question de l'urgence de la transition, il ne faut pas imaginer qu'elle puisse se reposer uniquement sur l'investissement public et sur les entreprises. Il va reposer beaucoup localement par l'action des gens. Il est aussi important pour chacun de nous d'être investi dans ce projet de vie pour la planète Terre, en fait. Mmh. Et donc, libérer ce temps, c'est libérer du temps pour des activités qui ne sont pas rentables d'un point de vue de l'économie capitaliste, en fait. Mmh. Puisque l'investissement qui va être financé et l'investissement qui est rentable d'un point de vue capitaliste, en fait.
Alors du coup, on revient un peu à ce que tu évoquais au début avec Virginia Woolf. Concrètement, quel type de financement peuvent venir nourrir ce système de revenus inconditionnels d'existence sans pour autant ni avoir le coût, comme tu le disais, d'autres dominations et donc d'autres victimes quelque part pour que moi je puisse avoir ma petite liberté et mon petit revenu de base. Je rappelle que je dis revenu de base pour en termes génériques. Donc quel financement possible pour éviter de finalement nourrir une autre domination sur un autre public et pouvoir, comme tu dis, sortir de cet argent rentabilité, concurrence, etc.
Alors, comment finalement, tu viens sur la question de comment financer revenu inconditionnel d'existence. C'est la grande question. Alors, pour pouvoir répondre, je dois préciser un peu mieux peut-être qu'est-ce que j'entends par revenu inconditionnel d'existence, parce qu'il y a un caractère spécifique qui fait que le financement ne peut pas être n'importe quoi. Il est vraiment spécifique à la caractéristique de ce revenu. Et je vais essayer de m'expliquer la manière plus claire, mais tu me diras si...
D'accord, si je comprends.
Si je ne suis pas assez claire, tu me le diras.
D'accord.
Bon, on est bien d'accord qu'il s'agit d'un revenu qui est découplé du travail.
Oui.
Donc, un revenu découplé du travail. Un revenu inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition de revenu, c'est-à-dire que ce n'est pas un revenu pour borner la pauvreté. Ça, c'est très important.
Mm.
Ce n'est pas un revenu pour borner la pauvreté. C'est un revenu pour l'autonomie et pour le développement, disons, pour permettre effectivement une transition écosophique,
d'accord,
on pourrait dire. Donc, c'est pas pour borner la pauvreté. Et inconditionnel, c'est-à-dire que il n'y a pas non plus de conditionnalité de travail-emploi.
Mm-hmm.
C'est un revenu d'existence, ça veut dire que ce n'est pas un revenu de subsistance. Alors, bien entendu, comment on peut le calculer, ça veut dire, ça va être déterminé, bon, collectivement, déjà. Il ne peut pas être pensé d'en haut, il doit être pensé collectivement, d'en bas. Et il doit être pensé aussi en termes monétaires, pour ce qui est la partie monétaire de ce revenu, parce que je pense qu'il y a une partie qui est non monétaire qu'il faut défendre absolument, et qui est donc liée au développement des services publics de santé, d'éducation, de la culture, mais aussi, effectivement, un vrai droit au logement, hein, la fameuse... chambre à soi avec serrure de Virginia Woolf. Et donc, et il doit permettre une existence digne. Donc, ça, c'est les premières caractéristiques. Mais, autre caractéristique qui est pour moi très importante, c'est le fait qu'il doit être un revenu primaire.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un revenu primaire ? Alors, le revenu primaire est le revenu que toute personne reçoit en échange de sa participation à la production économique capitaliste. Donc, c'est quoi ? C'est les salaires, les profits, la rente.
D'accord.
Dans la rente, on peut mettre les intérêts, les loyers. Donc, ça, c'est dans la comptabilité nationale, quand on fait la déclaration des revenus, on va déclarer quelque chose qui après va être comptabilisé par la comptabilité nationale comme revenu des ménages, revenu des personnes, revenu primaire. C'est donc tout ce qu'on reçoit en échange d'une participation, que ce soit par le travail, donc comme salaire, ou par le capital, sous la forme de profit ou rente.
Mm-hmm.
D'accord ? Alors, il faut tenir compte aussi d'une chose, qu'on considère que la pension de retraite et la location chômage, elle fait partie également du revenu primaire. Pourquoi ? Parce que en réalité, c'est un salaire différé.
D'accord.
OK ? Et après, il y a d'autres revenus. C'est des revenus de la redistribution. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans les revenus de la redistribution? Mais il y a les RSA, par exemple, ou l'allocation adulte handicapé. Bien. Si c'est clair, j'essaie de maintenant de voir comment, à ce moment-là, chacune de ces parties est financée. Donc, si on reprend le salaire. Le salaire, il est financé par quoi? Il est financé par la création monétaire. C'est-à-dire que les entreprises vont demander un prêt aux banques. La banque crée de l'argent qui va entrer en circulation, qui va produire, va être productif, etc. Et puis il revient. Et lorsque l'argent est remboursé, la monnaie est détruite, d'accord? C'est une monnaie, ce qu'on appelle une monnaie dette, qui fonctionne avec le prêt bancaire. Les salaires sont ainsi financés, mais les salaires payent un travail qui a produit de la richesse, qui va être donc qui va faire que ce qui est remboursé est moins de ce qui est mis dans le circuit économique.
On a vu ça dans l'épisode sur la monnaie libre et la monnaie locale Terra, pour ceux qui voudraient faire le lien.
Bon, très bien. Effectivement, on y arrive aussi avec ces liens, tout à fait. Et donc, il y a une partie qui est la cotisation, mais la cotisation donc qui permet la cotisation qui permet donc de payer les pensions de retraite les allocations chômage est une partie du salaire.
Oui, on est d'accord. Tu l'as dit, différé.
Okay. Et après, il y a les revenus de la redistribution. Et les revenus de la redistribution, par contre, ils sont financés par la fiscalité.
Oui.
Donc, maintenant, si je reviens à mon idée du revenu inconditionnel d'existence comme revenu primaire, eh bien, il ne peut être financé, justement par la manière comme je l'ai défini, il ne peut être financé que par la création monétaire, comme les salaires.
Donc, si je résume, pour vérifier que j'ai bien compris, donc pour toi, le revenu inconditionnel d'existence ne doit pas être un système de récupération de l'argent par la fiscalité, genre tout le monde reçoit son salaire, repaye une partie que l'État récupère pour redonner un revenu de base, mais ce serait quelque chose, un financement qui serait directement financé comme directement par la création monétaire.
Exactement.
Donc la Banque Européenne Centrale, etc., qui donnerait de l'argent directement dans nos poches.
Alors, la question de la banque... Alors, effectivement, la question qui se pose, c'est une fois qu'on a dit, effectivement, c'est juste, c'est tout à fait juste, donc merci, ça veut dire que j'étais assez claire. et en tout cas, tu m'aides beaucoup, merci, à l'être encore plus. Mais la question qui se pose, c'est quelle monnaie?
Mais oui, parce qu'on a vu que la monnaie dette, c'était pas très fiable quand même. C'était pas au service, en tout cas, de tes trois écologies.
Exactement. Alors, je donnerai deux éléments maintenant dans cette direction, en fait. Donc, la première, j'ai envie de vous lire un de mes auteurs très chers, c'est André Gorz, et il écrivait quelque chose. Je vais vous le dire parce que c'est très fort, je pense. Le revenu d'existence, quand il sera introduit, sera une monnaie différente de celle que nous utilisons aujourd'hui. Elle n'aura pas les mêmes fonctions. Elle ne pourra pas servir à des fins de domination, de puissance. Elle sera créée d'en bas, portée par une vague de fonds, en même temps que des réseaux de coopératives communales d'autoproduction, en réponse à une conjonction des différentes formes de crise que nous sentons monter. Crise climatique, crise écologique, crise de l'énergie et crise monétaire par suite d'effondrement du système de crédit. Alors ça, c'était en 2005. C'était vraiment assez puissant. Donc l'idée, c'est que la monnaie qu'on peut créer, elle ne peut pas servir à des fins de domination. Donc la question de quelle monnaie on va créer est très importante. Et dans ce sens, il y a un ouvrage qui vient de sortir de trois économistes qui développe l'idée d'une monnaie active, on peut dire, c'est un peu différent que la monnaie libre. L'idée étant que cette monnaie active est une nécessité puisque la monnaie dette, elle ne pourra pas financer la transition. Donc la nécessité de penser une autre monnaie est une urgence majeure. Et cet ouvrage qui s'appelle « La puissance de la monnaie », si je me souviens bien, en fait, de l'un des auteurs, c'est Gisabelle Coupet-Soubéran, qui n'est pas une monnaie dette, c'est une monnaie subvention. Voilà. Elle s'appelle « monnaie subvention ».
Hein.
C'est une monnaie de subvention. Bien entendu, après, l'équilibre par lequel il n'y a pas d'effet inflationniste, c'est déterminé après par la fiscalité, bien entendu. Donc voilà, donc l'idée pour moi c'est que, par ailleurs je ne suis pas une spécialiste de la monnaie, mais je retiens la nécessité véritablement de porter la question de la monnaie dans le débat public et qu'on s'en empare véritablement tous, hein, parce que c'est vraiment central, la monnaie elle n'est pas simplement ce qui sert à faciliter les échanges, voilà. Et donc, la manière comme on l'a construit est une manière d'instituer la société. Et justement, pour pouvoir transformer la société, il faut transformer la monnaie.
Est-ce que ça te va si on glisse une petite musique pour digérer tout ça avant de passer au prochain petit pas,
où
tu verrais vers un revenu d'existence inconditionnelle généralisé?
Et puis, vu que c'est une monnaie basée un peu sur les intermittents, voici la Java des ascétiques,
yes,
qui explique plus les problèmes des intermittents que les solutions d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qui nous fabrique avec leurs ascétiques? Il paraît qu'ils sont pas contents, mais qu'est-ce qui leur prend? Je les rencontre rue Bergère. Y'en a qui exagèrent, sur le trottoir j'en vois qui pleurent, j'ai pas mes heures. Ils bossent une heure, ça en fait 12, qui t'étonne pas qu'on les jalouse, qu'ils soient chômeurs, moi ça me résiste, ils sont artistes. C'est eux les intermitteux, les intermittents, les interminables, tout le temps comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire le con, ça soit un métier pour de bon. Mais qu'est-ce qui nous trafique avec leurs ascédiques? Paraît même qu'il y en a qui trichent, remplissant leurs fiches. Tous ceux qui passent à la téloche, ils s'en foutent plein les poches. Sans doute que ceux qu'on voit jamais, ils sont mauvais. Et toujours, toujours, ils se plaignent. Moi, je trouve ça mériterait des beignes. Ils ont qu'à se lever le matin, comme les copains. C'est eux les intermitteux, les intermutants, les interminables. Tout le temps comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire la fête, ça vous donnait des points de retraite. Voilà type qui se syndique, vu que leurs ascédiques, ils y comprennent pas grand chose, ils en tiennent une dose, ils font la queue pendant des plombes, des fois il y en a qui tombent, ils ont jamais le papier qu'on veut, ils refont la queue. Je te le dis, moi faudrait qu'on me paye pour aller mendier mon oseille, même que souvent ils la reçoivent pas avant des mois. C'est eux les intermitteux, les intermutants, les interminables. Tout le temps comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. Faut croire que les coups de pied au cul, c'est remboursé par la sécu. Mais qu'est-ce qui nous panique avec leurs ascédiques? Voilà qu'ils se mettent à faire la grève. Non, alors là, je rêve. Suppose que tous ils abandonnent, ça dérangerait personne. Il y aurait que des jeux à la télé, ça serait le pied. Remarque, ils se laissent pas abattre, ils s'en vont jouer dans des théâtres. Je vois vraiment pas qui c'est qui ira payer pour ça. C'est eux les intermitteux, les intermutants, les des interminables. Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. Je parie que tordus comme ils sont, ils vont même en faire des chansons. C'est eux les intermiteux, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable.
Et voilà, bah c'était Anne Sylvestre sur les ondes de Radio Campus pour ce tous essentiels consacré au riz.
Au riz. Rions ensemble. Merci Antonella, en tout cas, de nous ouvrir tout ça. Est-ce que tu peux nous préciser, pour rentrer dans le concret et préciser ce rêve, de bah, justement les prochains pas, comment est-ce qu'on peut arriver pas à pas à ce revenu inconditionnel d'existence?
Alors, pas à pas, effectivement, c'est pas à pas, et je dirais qu'on a deux chemins. Une approche ou deux approches, une approche descendante et une approche ascendante. On va la définir comme ça. Alors, l'approche descendante, eh bien, je pense qu'il faut partir de l'intermittence, du régime de l'intermittence, ou plutôt des annexes 8 et 10 du régime général de l'assurance chômage en France, qui constitue véritablement une spécificité très très intéressante. Pourquoi? Je vais le résumer vraiment de manière très très banale. Qu'est-ce que c'est ce régime? C'est quelque chose qui assure une continuité de revenus en situation de discontinuité de l'emploi et ouvre ainsi la possibilité d'une multiplicité de temps qui peuvent être consacrés à des activités libres, à des activités autonomes, donc qui ne sont pas finalisées à l'obtention d'argent. Je le définis comme ça. Donc, et ce régime a été lourdement attaqué en 2003. Ça a été presque 15 ans de lutte jusqu'aux derniers accords. Et je dirais que d'une part, rien n'assure qu'il ne soit pas menacé à nouveau. Mais surtout, ce qui est important, à mon sens, c'est comme disait l'intermittence pour tous, ça veut dire quoi? C'est qu'écrivaient à l'époque les intermittents qui avaient élaboré un modèle, ce qui s'appelle le nouveau modèle de l'assurance chômage. Ils avaient élaboré un nouveau modèle qui est très intéressant et qui permettait, qui pouvait être une base ouverte pour tous, intermittents du spectacle et intermittents d'autres activités. Donc imaginez l'intermittence comme modèle d'être dans l'emploi et en dehors de l'emploi, dans des activités autonomes. Et donc, ils avaient élaboré un modèle, ça s'appelait à l'époque le nouveau modèle, maintenant sont passés 20 ans, mais il est toujours là, en même temps que la menace de remettre en cause ce régime est toujours importante. Et le modèle aussi, il est toujours là, peut-être il faudrait le revoir, mais il contenait des éléments très très intéressants, puisque effectivement, il le pensait de la manière la plus large possible, cette discontinuité, la plus large aussi, dans le sens de pouvoir impliquer tout le monde en fait, hein, tout le monde, donc une intermittence pour tous, et qui permet donc de garantir cette continuité de revenus en discontinuité de l'emploi, qui pourrait être donc une sorte d'intermittence de l'emploi pour tous. Et autre chose, c'est que ce nouveau modèle, il préfigurait aussi la possibilité qu'il devient, parce que le régime de l'intermittence, il est conditionnel, c'est-à-dire il faut avoir réalisé un certain nombre d'heures sous contrat de travail pour pouvoir bénéficier de cette continuité de revenus dans la discontinuité de l'emploi. Et dans le nouveau modèle, on préfigurait aussi la possibilité de faire tendre vers zéro ce numéro d'heures nécessaire, et donc on finirait dans un revenu inconditionnel d'existence. Mais ce qui est intéressant, c'était la manière justement comment était étudiée l'articulation et le fait aussi de annualiser ses droits. C'était vraiment très, très important. Donc, je pense que là, il y a probablement quelque chose qu'il faudra toujours défendre, qui est l'intermittence des intermittents du spectacle, mais il y a aussi quelque chose sous laquelle pouvoir se battre, qui est l'intermittence pour tous. La deuxième chose, toujours une approche descendante, mais qui est aussi un peu ascendante, comme je disais tout à l'heure, pour revenir sur le livre de Jésabelle Coupé, Soubéran, Pierre Deslandres et Augustin Sursuivon, je pense qu'il est tout à fait important de pouvoir porter dans la cité, dans le débat, dans la politique, dans la cité, la question de la monnaie. Et imaginer véritablement le financement de ce revenu par la monnaie. Puis je disais l'approche ascendante. L'approche ascendante, c'est partir d'en bas. Et donc déjà de diffuser de manière moléculaire, véritablement, l'idée du revenu de base ou du revenu inconditionnel d'existence, comme je l'ai défini. Et chose qui me semble vraiment importante, parce que cette diffusion, par exemple, elle est aujourd'hui beaucoup plus importante qu'elle ne l'était auparavant et que vous avez opéré énormément dans ce sens. Hein. Votre mouvement a été fondamental dans ce
fermé,
sens.
Oui, merci.
Vraiment fondamental, en fait. Hein. J'ai posé la question du revenu inconditionnel d'existence il y a 40 ans. Hein. Donc, j'étais une sorte de...
À l'époque,
on était des ovnis, quoi. Donc, et vous avez contribué largement à cette diffusion. Maintenant, il s'agit de travailler le rhizome, c'est-à-dire comment faire rhizome de cette multiplicité d'expériences et d'expérimentations. Et effectivement, grandir par connexion rhizomatique des différentes expérimentations, tout en laissant à chacune sa singularité. Et ça, ça me semble quelque chose qui est le travail à faire. Là, pour demain.
Ça me fait penser à un autre épisode, on commence à les accumuler avec Max, sur l'entreprise libérée où Julie, qui est à Paris, nous racontait comment, dans leur petite entreprise, un peu support d'auto-entrepreneurs, ils avaient réussi, ils étaient en cours, enfin voilà, c'est vraiment du travail, de longue haleine, à instaurer un revenu de base entre eux. Et ça me fait vraiment penser à ce que tu dis, dans le sens où on n'attend pas que ça vient d'en haut, on multiplie les expérimentations, même à toute petite échelle. Là, ils étaient 6. À Terra, ils sont quelques dizaines. Et en même temps, c'est ça qui permet de, en s'appuyant sur le vécu des autres, déjà de déconditionner l'imaginaire et d'inviter les autres à essayer, tout en gardant, comme tu disais, la spécificité, puisque là, chaque terrain et organisation est différente. Donc, on reprend notre pouvoir d'agir, quoi, c'est ça.
Absolument. Et donc, il est vraiment très, très important, à la fois... L'échange d'expérience, faire des recettes, raconter vraiment toutes les différentes expériences, en fait, et en même temps, les mettre faire rhizome, en fait. Véritablement, donner de la puissance par le fait d'imaginer les connexions possibles.
Écoute, Antonella...
Et les interactions possibles entre ces différentes expériences et expérimentations.
Je ne peux pas t'écouter sans t'inviter à participer, un, aux états généraux du revenu de base qui auront lieu le 9 et 10 novembre à Givors. Et il y a notre projet revenu de base en un quinquennat, parce que là, vraiment, tu rentres à fond dedans et ce serait vraiment intéressant de pouvoir te lire aussi à ce moment-là. Pour conclure, est-ce que ça te va si j'évoque ton livre, puisque il parle notamment de ces points sur lesquels tu nous laisses un peu sur notre faim, Chemin de la liberté, le travail entre hétéronomie et autonomie, que je vous invite à découvrir, pour revenir sur toutes ces enquêtes sur les intermittents et les coopératives d'activité et d'emploi, entre autres, parce qu'il y a d'autres surprises dedans. Un grand merci Antonella pour ces échanges et pour tous ceux qui reviendront, parce que c'est sûr, on se reverra, je ne te lâcherai pas.
À très bientôt et merci beaucoup de m'avoir invité, j'étais ravie, merci à vous.
Avec grand plaisir, merci Max.
À très bientôt alors.
Mais merci beaucoup et puis nous on se retrouve sans doute le mois prochain avec d'autres invités, n'est-ce pas?
Oui, je parie sur le premier lundi du mois à 8h.
Bon, ça devrait être quelque chose comme ça, effectivement. Eh bien, joyeux mois à toi et rendez-vous le mois prochain. Au revoir à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Je les connais souvent, je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes, le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel.